11h26, le soleil qui se lève tranquillement mais sûrement actuellement sur Québec. C'est un moins 11 avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 16. Alternance de soleil-nuages pour aujourd'hui avec un maximum de moins 4 degrés. Ce soir, l'arrivée des nuages, c'est ce qu'on nous mentionne, minimum de moins 17 degrés. Demain samedi, alternance de soleil et de nuages en début de journée. Par la suite, des probabilités d'averse en après-midi à 60 %. Maximum de moins 5 degrés en soirée, ciel dégagé. Minimum de moins 15. Et pour terminer la fin de semaine, dimanche, ce sera nuageux avec un maximum de zéro. Pour nous joindre en studio, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. 88-971-1021, c'est par texto.
Tout est beau.
Ça roule à Monaco.
Les news 1021.
Max, qu'est-ce que tu as à nous apprendre aujourd'hui?
Je commence dans les faits divers avec le procès de Raphaël Plamondon, accusé d'avoir menacé et agressé des agents correctionnels qui s'est ouvert cette semaine à Québec avec le témoignage marquant de l'agent Jean-Michel Girard. Intervention qui remonte au 24 juillet 2024 à la prison d'Orsainville où le détenu de 37 ans s'était barricadé avec une machette artisanale et un pic. Selon la poursuite, il s'est opposé violemment à un transfert proférant des menaces envers le personnel. Les agents qui ont déployé une équipe spécialisée utilisant bouclier, bâton, agent chimique sans effet notable. L'accusé qui aurait même résisté là, aux irritants de façon assez exceptionnelle. Après près d'une heure, il s'est finalement rendu avant de continuer à menacer les gardiens. L'agent Jean-Michel Girard qui a dit craindre encore pour sa sécurité et celle de sa famille. Il y a un autre agent correctionnel qui aurait été visé par les menaces qui doit témoigner durant le procès, après quoi le détenu pourra présenter sa défense.
Moi, je salue les agents correctionnels de ne pas avoir vargé plus fort que ça. Tu te fais menacer personnellement, tu te fais menacer ta femme, tes enfants, ta famille, de garder son calme dans des situations comme ça, vous avez tout mon respect. Et cela dit, si ce qui est arrivé au centre de détention est arrivé dans la rue, parce que je vous rappelle que cet homme-là était armé d'un couteau, si c'est des policiers qui agissent plutôt que des agents correctionnels, le gars se ramasse avec une balle dans la tête.
Mm-hmm.
C'est fini, c'est terminé. C'est boum, 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 merci, bonsoir. T'as menacé un policier. Là, t'as les agents correctionnels qui sont vraiment mal équipés. Là. C'est un costume de game de hockey. Là. C'est un costume de joueur de hockey avec des matraques, avec du poivre de Cayenne. Et le gars ne répondait pas au spray de Cayenne. Il y a un agent de correctionnel qui a dit dans le journal, si je ne me trompe pas, c'est dans le Soleil, il a dit, c'est la première fois, à peu près 500 interventions, que je vois quelqu'un qui est insensible au poivre de Cayenne. Fait qu'ils en ont donné une traite. Il est chanceux d'être encore en vie, le gars. Là.
Très chanceux.
Si c'était les policiers qui étaient intervenus, c'est une balle dans le centre-masse, merci, bonsoir. On passe à l'autre chose.
C'est une autre preuve qu'il faut mieux équiper nos agents correctionnels.
Oui, puis des grosses balles de caoutchouc. J'avais vu au sommet des Amériques une arme de policier.
Ouais.
Puis pour éloigner la foule, exemple, t'es à 2 mètres ou 3 mètres de moi, t'as comme un genre de gun avec une grosse balle en caoutchouc.
Oui, j'ai déjà vu ça.
Ça donne un peu comme l'effet d'un coup de poing si tu le reçois sur le corps. Mais de ce que je comprends, ils sont pas équipés de cette arme-là, qui est pas une arme qui est mortelle, qui peut blesser, on s'entend?
Ben
c'est
oui.
Comme l'équivalent d'un coup de poing que tu reçois sur le corps. Mais
En même temps, blesser un gars comme ça qui est en psychose totale puis qui s'en prend à des gardiens de prison avec des balles de caoutchouc, là, c'est la moindre des choses.
Ce qui était impressionnant, c'est que toute l'intervention a été filmée. Là.
Ouais.
Vous m'avez envoyé les images hier, je regardais ça.
Et quand ils pètent les fenêtres du centre de contrôle.
Oui. Oh, ouais. Moi, c'est plus les menaces pour ce qui est des agents correctionnels. Si tu veux pas travailler dans un centre de détention où les agents correctionnels sont tous masqués et ils n'ont pas leur nom de famille décrit parce que ça peut laisser place à du débordement.
En effet.
Mais des fois, tu comprends pourquoi les gars, ils veulent pas que leur nom soit affiché.
Ben oui. Parce qu'ils vont être retracés.
Déjà que c'est pas la job la plus incroyable et la plus rémunérée. Là,
non.
Alors que c'est une job qui est vraiment nécessaire.
Oui, Puis déjà qu'il y en a des gars qui se font entendre dans le parking par des amis d'un tel qui est en dedans pour dire « Hey, ça tombe bien, je suis où t'habites. »
Biche. À Sainte-Marie, il y avait une police dans le temps, là, c'est rendu la Sûreté du Québec. Là. Mais les policiers de Sainte-Marie, pour travailler pour la police de Sainte-Marie, on parle d'une bourgade de, je sais pas, ils sont rendus combien, mais mettons 15-20 000, là, je pense pas que je me trompe. Bourgade de 15-20 000 personnes, tu as des policiers, puis pour si tu voulais travailler pour la police de Sainte-Marie, tu devais rester sur le territoire de Sainte-Marie. Ça veut dire que le gars à qui t'a donné un ticket, là, parce qu'il y avait trop sur le boulevard... Tu le croises à l'école avec tes enfants et ses enfants.
Ouais. Aïe, aïe.
C'était C'est un peu rough.
C'est weird.
C'est weird, surtout.
La firme LGS, propriété d'IBM, qui refuse de transmettre à l'UPAC une cinquantaine de documents liés au projet Saclic. L'UPAC fait donc appel à la Cour supérieure pour forcer la divulgation de ces documents-là. Les éléments en question qui concernent un litige survenu en 2020 entre la SAAC et ses fournisseurs qui a mené une renégociation du contrat initial, ce que nous explique Radkan. Cette entente-là qui demeure bien inconnue, là, malgré son importance dans l'explosion des coûts du projet. L'UPAC, qui soutient que l'intérêt public justifie de lever le secret professionnel pour mener son enquête criminelle. Il y a des témoins qui ont déjà accusé LGS d'avoir sous-estimé son offre initiale pour obtenir le contrat. Puis après ça, ben ça a explosé. Dans la presse, je capotais en disant ça ce matin, l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, qui poursuit la ville pour des millions de dollars, mais on sait pas grand-chose. C'est la presse qui a obtenu la poursuite déposée la semaine passée, mais mentionne qu'elle est caviardée au point d'en être très difficilement compréhensible. Seuls 13 des 39 paragraphes sont partiellement lisibles et donc il est difficile de comprendre ce que veut M. Vaillancourt, ce qu'il reproche. Même la somme qu'il réclame, c'est caviardé. On mentionne toutefois qu'une note manuscrite à l'endos de la requête mentionne une réclamation de 3,5 millions de dollars à peu près. La requête qui souligne que le maire actuel de Laval, Stéphane Boyer, a fait des déclarations publiques il y a deux semaines précisant qu'il a avoué publiquement quelque chose, mais la suite est caviardée. Mais on cite des paroles de M. Boyer qui dit « Mes fonctionnaires me disent, on n'a pas le choix, faut signer le chèque, faut envoyer 1 million à Gilles Vaillancourt pour qu'il paye ses impôts. Moi, c'est pas vrai que je vais envoyer un chèque à Gilles Vaillancourt. Vous comprenez l'absurdité de la chose. » Donc, ce sera en lien possiblement avec ça. Gilles Vaillancourt qui demande au tribunal de condamner la ville de Laval à payer 4 montants distincts, mais sont tous caviardés. Fait que, mais on sait qu'il y a le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires, assez particulier comme situation. La Ville de Québec a donné près de 1700 tickets pour stationnement illégal à l'Université Laval dans les 4 derniers mois. C'est une moyenne de 15 par jour. C'est dans le Journal de Québec là, qu'on peut lire ça ce matin. C'est depuis septembre dernier que le stationnement est payant en tout temps à l'Université Laval. Il y a eu une période de tolérance de quelques semaines, mais les agents de la Ville ont commencé à sévir le 25 novembre.
Ça fait un bout, j'ai pas été au PEPS. Là. Si tu vas au PEPS, exemple, jouer une game de hockey, il faut que tu payes ton stationnement quand même.
Exactement, puis c'est avec l'application Copilote, la même qu'il y a pour, dans la Ville de Québec. Il y a pour certaines activités physiques en rentrant, il va y avoir un code que tu scannes puis que tu vas avoir des heures de gratuité. Là. Par exemple, nous, on se retrouve à chaque dimanche matin parce que Gabou fait du Ultimate Frisbee. Fait que tu as 2 heures de gratuité de parking en scannant.
Mais ça, c'est un montant supplémentaire qui rentre dans les coffres de la Ville?
Oui, exactement. Ouais. Puis là,
j'ai encore une baisse de taxes?
Non, ça, c'est sur le dos des étudiants en plus.
Elle va aller où, cet argent-là?
Je sais. Ah, je sais! Dans un endroit que ça va super bien. La communication des travaux du tramway.
Oui, monsieur.
Je vous disais que on a commencé à donner des tickets le 25. Dès le lendemain, le 26, j'imagine qu'on a voulu passer un message. Là, on a donné 88 tickets. Une contravention pour stationnement illégal, c'est 60$ plus 33$ en frais judiciaires. Le journal qui n'a pas réussi à savoir si le nombre quotidien moyen de contraventions à l'Université Laval a monté ou non en raison de la nouvelle réglementation. Mais mettons que tout laisse croire que oui. Là, oui. À partir du moment où d'habitude, c'est pas tout le temps payant, puis à un moment donné, ça devient du jour au lendemain tout le temps payant, ben, c'est sûr qu'il va en avoir plus. Le ministre libéral Joël Lightbound, qui a été appelé hier à commenter une fois de plus le plan de financement d'Ottawa pour le projet de tramway de Québec, puis mettons que sa réponse laisse le monde un petit peu sur sa faim. Il dit que le projet va de l'avant, que c'est clair, que le gouvernement du Québec l'a déjà dit, une part du financement reste à déterminer, ce sera la contribution de CDPQ Infra, mais si Québec veut que la part du gouvernement fédéral augmente, quand les ententes seront finalisées, il y aura moyen de le faire si c'est une priorité. Ouais. Fait qu'il dit à Québec, faites-en une priorité. Il y a 25 milliards qui est là.
25 milliards. Au prorata de la population du Québec, c'est 5,5 milliards qu'on va avoir entre présentement 2026 et 2035 pour notre mode de transport structurant. Si le tramway reste à 7,6 milliards, pour augmenter la part du fédéral pour que ça équivale à 40 %, on va venir manger 28 % de cette enveloppe-là.
S'il monte à 13?
S'il monte à 13, on va venir manger tout près de 50 % de cette enveloppe-là. J'avais calculé à 10, puis c'était 40 %. Fait qu'oubliez ça, là, ils seront jamais à 40 % le fédéral. Là.
Non, c'est bizarre à dire, mais le fédéral agit d'une façon assez responsable. C'est sous présentation de la facture.
Oui.
Donc, ils paieront pas tant et aussi longtemps qu'ils reçoivent pas la facture.
Exactement. Mais tu sais, c'est impossible que Québec, juste la ville de Québec, aille chercher la moitié de cette enveloppe-là. Il y a un prolongement du métro à Montréal, il y a un tramway dans l'est de Montréal, puis là, il y a plein d'autres projets aussi dans d'autres municipalités au Québec, là, t'sais, que je connais pas là, parce que je veux pas fouiller ce qui se passe au Saguenay puis ce qui se passe à Trois-Rivières, mais il y en a plein de projets partout. Là.
T'sais, on veut que le fédéral s'engage à 40%, mais 40% de quoi? Autant le maire Marchand que la province de Québec est incapable de dire le montant.
Exactement.
Final. Il n'y a pas un gouvernement responsable, puis je ne dis pas que le gouvernement fédéral est responsable dans ce dossier-là, là, mais il n'y a pas un gouvernement responsable qui va dire « Ah oui, je vais m'engager pour 40% sans savoir les coûts finaux. »
Non, c'est ça.
On vit dans une drôle d'époque.
Les questions qui venaient à la suite d'une lettre ouverte du député de Charlebourg de Saint-Charles et lieutenant du Québec pour les conservateurs, Pierre Poilievre, qui demandait leur juste. Et M. Lightbound s'est permis d'ironiser qu'il y a moins d'un an des députés conservateurs de la région de Québec, Pierre Poilievre au premier chef, qui faisait campagne en s'engageant solennellement à retirer le financement fédéral du tramway. Nouvelle quand même importante ce matin, Québec qui va lancer une nouvelle réforme de la santé en misant sur les CLSC et sur les technologies, dont l'intelligence artificielle, pour améliorer l'accès aux soins de première ligne. Le gouvernement qui annoncera aujourd'hui le grand retour de la mission des CLSC territoriaux, a appris le bureau parlementaire du journal. Québec qui veut instaurer un nouveau modèle d'affiliation territoriale pour le patient attaché au CLSC. On veut rapprocher les soins et leur gestion des lieux de résidence. Le rôle du CLSC qui sera d'accueillir, d'orienter et de soutenir l'accès aux services deviendra le principal point de référence pour les patients et sera responsable des suivis auprès des différents intervenants du réseau. Le gouvernement qui prévoit aussi notamment le déploiement de la plateforme Votre Santé, une application qui doit offrir un accès simplifié à l'ensemble des services de première ligne en un seul endroit, au bout des doigts. L'intelligence artificielle qui serait utilisée pour faciliter la recherche d'informations, orienter les citoyens vers des auto-soins adaptés ou les guider dans les prochaines étapes de leur parcours de soins de service. Ce qui est intéressant, c'est que le journal a pris le temps de bien lire le document, tout ça, puis mentionne qu'il demeure difficile de comprendre concrètement le parcours qu'un patient devra emprunter pour obtenir une consultation. Fait que le journal qui a checké tout ça, qui nous rapporte les grandes lignes, puis dit on comprend pas vraiment qu'est-ce que ça va donner ou du moins qu'est-ce que ça va changer pour le patient, comment le patient va faire pour avoir des soins.
C'est à 9h ce matin, la conférence de presse, et dans l'émission d'En jase, Pascal Renaud, à qui on parle régulièrement aussi le matin, président de la Fédération des médecins et praticiens de Québec, va être avec nous justement pour commenter cette annonce-là.
Merci beaucoup. 6:38. Les sports. Canadien de Montréal qui n'a pas joué un gros match hier. C'est les Blue Jackets de Columbus qui ont joué le meilleur hockey. Malgré tout, le Canadien qui se sauve avec une victoire.
Ouais, autre grosse performance. Jakub Dobesh devant son filet. 25 arrêts dans une victoire de 2-1 du CH face aux Jackets. Jaden Struble et Zachary Bolduc qui ont marqué pour le tricolore. Montréal qui se rapproche à 4 points du Lightning de Tampa Bay pour le deuxième rang de l'Atlantique. Puis même le premier rang devient en quelque sorte à accès. Si les Sabres connaissent une petite baisse de régime, c'est 6 points d'avance qu'on a sur le Canadien. Là. Fait que, c'est rien d'impossible si le Canadien gagne pas mal tout d'ici à la fin de l'année. On essaie de partir sur cette séquence-là ou de continuer sur la séquence, devrais-je dire, demain face aux Predators du côté de Nashville. Hier, les Penguins de Pittsburgh qui ont le dessus 4-3 tirs de barrage sur les Sénateurs. Sidney Crosby qui a quitté la rencontre en raison d'une blessure. Ça, évidemment que ça fait excessivement mal aux Pens. Pardon. On dirait que c'est... On espère que c'est rien de trop grave. Énorme victoire aussi des Islanders de New York sur les puissants Stars de Dallas grâce à 26 arrêts du gardien Ilya Sorokin. Dans la LHGMQ, début des séries ce soir, 18h pour nos remparts de Québec qui visitent les Islanders du côté de Charlottetown. Et retraite qui va être, qui est annoncée, mais qui va être officialisée dans les prochains jours. Michael Kingsbury qui va officiellement prendre sa retraite après le championnat canadien de ski acrobatique qui se déroule en fin de semaine du côté de Saint-Sauveur. Fait qu'un des très grands du sport québécois qui accroche ses skis.
Après la pause, on a plusieurs dossiers à jaser avec l'ex-enquêteur du service de police de la Ville de Québec, Roger Ferland, qui sera là, entre autres, pour nous parler de cette histoire. Le jeune Québécois de 19 ans qui était parti à 5h du matin chercher un sandwich. Finalement, il aurait été tué pour son scooter, de ce qu'on comprend. Scooter qui n'a finalement pas été volé. On aurait retrouvé les suspects. Et sur les suspects, il y avait une grosse quantité de drogue. Là, hier, il y avait une photo qui... nous démontrer à quel point le gars, il avait du stock dans son sac. Donc, l'histoire de la sandwich, on y croit peut-être un peu moins.
Exactement.
Qui va chercher une sandwich en République dominicaine à 5 heures le matin?
Ben, quelqu'un qui a faim.
Ouais, peut-être.
Ah?
En scooter avec ton frère.
Ouais. Hein? Ça, tu t'es jarvé des traits de bouffe?
C'est triste parce qu'il est décédé.
Ben oui, je
sais. Mais on va en parler avec Roger, puis plein d'autres sujets à lui à parler, donc restez là.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la